Chapitre 39. Une abdication. Rien ne pouvait être plus funeste à Esther que le parti pris par Nucingen. La pauvre courtisane défendait sa vie en se défendant contre l'infidélité. Carlos appelait bégueulisme cette défense si naturelle. Or, Aziala, non sans employer les précautions usitées en pareil cas, apprendre à Carlos la conférence qu'elle venait d'avoir avec le baron et tout le parti qu'elle en avait tiré. La colère de cet homme fut comme lui, terrible. Il vint aussitôt en voiture, les stores baissés, chez Esther, en faisant entrer la voiture sous la porte. Encore presque blanc quand il monta, ce double faussaire se présenta devant la pauvre fille. Elle le regarda, elle se trouvait debout, elle tomba sur un fauteuil, les jambes comme cassées. « Qu'avez-vous, monsieur ? » lui dit-elle en tressaillant de tous ses membres. « Laisse-nous, Europe !» dit-il à la femme de chambre. Esther regarda cette fille comme un enfant aurait regardé sa mère, de qui quelque assassin le séparerait avant de le tuer. « Savez-vous où vous enverrez Lucien ? » reprit-il quand ils se trouvèrent seuls. « Où ? » demanda-t-elle d'une voix faible en se hasardant à regarder cet homme. « Là d'où je viens, mon bijou !» Esther vit tout rouge en regardant l'homme. « Aux galères !» ajouta-t-il à voix basse. Esther ferma les yeux, ses jambes s'allongèrent, ses bras pendirent, elle devint blanche. L'homme sonna, Prudence vint. « Fais-lui reprendre connaissance, » dit-il froidement, « je n'ai pas fini. » Il se promena dans le salon en attendant. Prudence Europe fut obligée de venir prier monsieur de porter Esther sur son lit. Il la prit avec une facilité qui prouvait sa force athlétique. Il fallut aller chercher ce que la pharmacie a de plus violent pour rendre Esther au sentiment de ses maux. Une heure après, la pauvre fille était en état d'écouter ce cauchemar vivant, assise au pied du lit, le regard fixe et éblouissant comme deux jets de plomb fondu. « Mon petit cœur, reprit-il, Lucien se trouve entre une vie splendide, honorée, heureuse, digne, et le trou plein d'eau, de vases et de cailloux, où il allait se jeter quand je l'ai rencontré. » La maison de Grandlieu lui demande une terre d'un million avant de lui obtenir le titre de marquis et de lui tendre cette grande perche appelée Clotilde. Grâce à nous deux, Lucien vient d'acquérir le manoir maternel, le vieux château de Rubempré, qui n'a pas coûté grand-chose, 30 000 francs. Mais son avoué, par d'heureuses négociations, a fini par y joindre pour 1 000 000 de propriétés, sur lesquelles on a payé 300 000 francs. Le château, les frais, les primes à ceux qu'on a mis en avant pour déguiser l'opération aux gens du pays ont absorbé le reste. Nous avons bien, il est vrai, 100 000 francs dans les affaires qui, d'ici à quelques mois, vaudront 200 à 300 000 francs. Mais il restera toujours 400 000 francs à payer. Dans 3 jours, Lucien revient d'Angoulême où il est allé, car il ne doit pas être soupçonné d'avoir trouvé sa fortune en cardant vos matelas. « Oh non ! » dit-elle en levant les yeux par un mouvement sublime. « Je vous le demande, est-ce le moment d'effrayer le baron ? » dit-il tranquillement. « Et vous avez failli le tuer avant-hier. Il s'est évanoui comme une femme en lisant votre seconde lettre. Vous avez un fier style, je vous en fais mes compliments. Si le baron était mort, que devenions-nous ? Quand Lucien sortira de Saint-Thomas-d'Aquin, gendre du duc de Grandlieu, si vous voulez entrer dans la scène... « Eh bien, mon amour, je vous offre la main pour faire le plongeon ensemble. C'est une manière d'en finir. Mais réfléchissez donc un peu. Ne vaudrait-il pas mieux vivre en se disant à toute heure « Cette brillante fortune, cette heureuse famille, car il aura des enfants. Des enfants !» Avez-vous pensé jamais au plaisir de passer vos mains dans la chevelure de ces enfants ?» Esther ferma les yeux et frissonna doucement. Eh bien, en voyant l'édifice de ce bonheur, on se dit « Voilà mon œuvre !» Il se fit une pause pendant laquelle ces deux êtres se regardèrent. « Voilà ce que j'ai tenté de faire d'un désespoir qui se jetait à l'eau, » reprit Carlos. « Suis-je un égoïste, moi ? Voilà comme on l'aime. On ne se dévoue ainsi que pour les rois, mais je les sacrés rois, Lucien. On me riverait pour le reste de mes jours à mon ancienne chaîne, il me semble que je pourrais y rester tranquille en me disant « Il est au bal, il est à la cour. » Mon âme et ma pensée triompheraient pendant que ma guenille serait livrée aux argousins. Vous êtes une misérable femelle, vous aimez en femelle. Mais l'amour chez une courtisane, comme chez toutes les créatures dégradées, un moyen de devenir mère en dépit de la nature qui vous frappe d'infécondité. Si jamais on retrouvait, sous la peau de l'abbé Carlos, le condamné que j'étais auparavant, savez-vous ce que je ferais pour ne pas compromettre Lucien ? Esther attendit avec une sorte d'anxiété. Eh bien, je mourrais comme les nègres en avalant ma langue. Et vous, avec vos simagrées, vous indiquez ma trace. Que vous avais-je demandé ? De reprendre la jupe de la torpille pour 6 mois, pour 6 semaines, et de vous en servir pour pincer 1 million. Lucien ne vous oubliera jamais. Les hommes n'oublient pas l'être qui se rappelle à leurs souvenirs par le bonheur dont on jouit tous les matins en se réveillant toujours riche. Lucien vaut mieux que vous. Il a commencé par aimer Coralie, elle meurt, bon. Mais il n'avait pas de quoi la faire enterrer. Il n'a pas fait comme vous tout à l'heure, il ne s'est pas évanoui, quoique poète. Il a écrit 6 chansons gaillardes et il en a eu 300 francs, avec lesquels il a pu payer le convoi de Coralie. J'ai ces chansons-là, je les sais par cœur. Eh bien, composez vos chansons. Soyez gaies, soyez folles, soyez irrésistibles et insatiables. Vous m'avez entendu ? Ne m'obligez plus à parler. Baisez papa, adieu. Quand, une demi-heure après, Europe entra chez sa maîtresse, elle la trouva devant un crucifix, agenouillée dans la pose que le plus religieux des peintres a donnée à Moïse devant le buisson d'Horeb, pour en peindre la profonde et entière adoration devant Jéhovah. Après avoir dit ses dernières prières, Esther renonçait à sa belle vie, à l'honneur qu'elle s'était fait, à sa gloire, à ses vertus, à son amour. Elle se leva. « Oh, madame, vous ne serez plus jamais ainsi !» s'écria Prudence Servien, stupéfaite de la sublime beauté de sa maîtresse. Elle tourna promptement la psyché pour que la pauvre fille pût se voir. Les yeux gardaient encore un reflet des splendeurs de l'âme qui s'envolait au ciel. Le teint de la juive étincelait. Trempée de larmes absorbées par le feu de la prière, Cécile ressemblait à un feuillage après une pluie d'été. Le soleil de l'amour pur les brillantait pour la dernière fois. Les lèvres parlaient des suprêmes invocations aux anges, à qui sans doute elle avait emprunté la palme du martyr en leur confiant sa vie sans souillure. Enfin, elle avait la majesté qui dut briller chez Marie Stuart au moment où elle dit adieu à sa couronne, à la terre et à l'amour. « J'aurais voulu que Lucien me vît ainsi » dit-elle en laissant échapper un soupir étouffé. « Maintenant, » reprit-elle d'une voix vibrante, « blagon !» En entendant ce mot, Europe resta tout hébétée, comme elle eût pu l'être en entendant blasphémer un ange. « Eh bien, qu'as-tu donc à regarder si j'ai dans la bouche des clous de girofle au lieu de dents ? Je ne suis plus maintenant qu'une voleuse, une infâme et immonde créature, une fille, et j'attends Mylord. Ainsi, fais chauffer un bain et apprête-moi ma toilette. » Il est midi, le baron viendra sans doute après la bourse, je vais lui dire que je l'attends, et j'entends qu'Asie lui apprête un dîner un peu chouette. Je veux le rendre fou, cet homme. Allons, va, va, ma fille. Nous allons rire, c'est-à-dire, nous allons travailler. » Elle se mit à sa table et écrivit la lettre suivante. « Mon ami, si la cuisinière que vous m'avez envoyée n'avait jamais été à mon service, j'aurais pu croire que votre intention était de me faire savoir combien de fois vous vous êtes évanouie avant-hier en recevant mes 3 poulets. Que voulez-vous ? J'étais très nerveuse ce jour-là, je repassais les souvenirs de ma déplorable existence. Mais je connais la sincérité d'Asie. Je ne me repens donc plus de vous avoir fait quelque chagrin, puisqu'il a servi à me prouver combien je vous suis chère. Nous sommes ainsi, nous autres, pauvres créatures méprisées. Une affection vraie nous touche bien plus que de nous voir l'objet de dépenses folles. Pour moi, j'ai toujours eu peur d'être comme le porte-manteau où vous accrochiez vos vanités. Ça m'ennuyait de ne pas être autre chose pour vous. Oui, malgré vos belles protestations, je croyais que vous me preniez pour une femme achetée. Eh bien, maintenant, vous me trouverez bonne fille, mais à condition de toujours m'obéir un petit peu. Si cette lettre peut remplacer pour vous les ordonnances du médecin, vous me le prouverez en venant me voir après la bourse. Vous trouverez sous les armes, et paré de vos dons, celle qui se dit pour la vie votre machine à plaisir. Esther. À la bourse, le baron de Nucingen fut si gaillard, si content, si facile en apparence et se permit tant de plaisanteries que Dutillet et les Keller qui s'y trouvaient ne purent s'empêcher de lui demander raison de son hilarité. « Je suis à mai. Nous bandons bientôt la grémaillère, » dit-il à Dutillet. « À combien cela vous revient-il ? » lui répartit brusquement François Keller, à qui Madame Colville coûtait, disait-on, 25 000 francs par an. « Jamais cette femme, qui aide à une hanche, ne m'a demandé 2 liards. »« Cela ne se fait jamais, » lui répondit Dutillet. « C'est pour ne jamais rien avoir à demander qu'elle se donne des tantes ou des mères. »